musique. Inouï.
Caravana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour Dawakal.
Vive mon grand néon. Vive le soleil. Vive
les oreilles.
Libre.
Thank you.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Les Oreilles Libres aujourd'hui consacrées au groupe 60 étages. Alors nous recevons Dominique Répéco. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Et Bruno Florence. Bonjour Bruno. Alors Bruno, on a consacré une émission à ton duo Bruxelles il y a quelques semaines. Dominique, on avait fait une émission en mai consacrée à Musique Action, où on avait pas mal parlé du festival, de ton activité au sein de la scène nationale de Vendôme-Vrolet-Nancy, des choses un petit peu institutionnelles. Et là, on va parler plus de ton activité de musicien, si tu veux bien.
Je veux bien.
Oui, merci bien. On a fait pas mal d'émissions autour du centre culturel André Malraux de Vendôme cette année. Tout simplement parce que j'étais en formation professionnelle et j'avais fait une demande de stage au CCAM et tu avais gentiment accepté. Ce qui nous a permis de faire des émissions autour de Guy Gouchenvier, Isabelle Dutoit notamment, et puis tout cet été de faire des retransmissions, des concerts du festival de Musique Action de Vendôme. Donc c'était l'année CCAM, cette année dans notre émission. On était très contents de ça et on voulait terminer l'année par évoquer un groupe marquant de l'histoire du rock français, des musiques de traverse française, à savoir 60 étages. D'abord peut-être on peut dire ce que nous avons commencé par écouter, c'était un extrait de Beau Soir de Paris, je crois.
Exactement, oui, un morceau... de 88.
Voilà. Eh bien, on va pas redire tout ce qu'on avait dit dans l'émission de mai, mais peut-être quand même resituer un petit peu ta formation musicale. comment t'as appris à jouer de la musique si tant est que t'as appris.
Ça va être très bref. J'ai eu une formation musicale de base quand j'étais enfant, au niveau de l'école primaire, à cet âge-là. J'ai arrêté relativement vite pour me lancer dans une grande carrière autodidacte en qualité de guitariste. J'ai dû commencer à l'âge de 12 ans, il y a longtemps. 48 ans.
Oula.
Voilà, c'est ça.
Donc, pas de cours de conservatoire, des choses comme ça?
Non, non.
Et il y a un autre épisode, on va faire une redite, mais qu'on avait dit en mai, mais que je trouve quand même intéressant pour situer le personnage que tu es sur notre antenne, Radio Libertaire. C'est l'épisode de ton insoumission.
Oui, je fais partie de cette génération qui... qui militait pour la fin de la guerre sur cette planète. On a vachement réussi. En tout cas, c'est une époque où le service militaire existait encore. Et je fais partie de ceux qui avaient obtenu un statut d'objecteur de conscience, mais qui se sont insoumis à l'objection.
Voilà.
Pour des raisons de discrimination, deux ans de service, etc.
Voilà, pour expliquer les plus jeunes auditeurs ne savent peut-être pas, parce que ça n'existe plus. Mais moi, par exemple, j'ai fait deux ans où je devais servir la France.
Voilà.
Donc c'était pénible. Donc toi, tu as refusé même ça.
J'ai refusé même ça, et ce qui... m'a valu des petits soucis avec la République française pendant 5 ou 6 ans.
Ah oui, oui, c'est pas rien quand même. Et est-ce que ça influence ton avenir à l'époque? Est-ce que tu peux dire maintenant que ça...
Ça a sûrement déterminé certains choix, évidemment, de radicalité.
Voilà. Ouais. Quels étaient à l'époque tes goûts musicaux?
Les goûts musicaux, à l'époque, alors ça c'est milieu des années 70, j'ai 20 ans 70, en 75 pardon, pour simplifier. À cette époque-là, je suis très au courant de la scène qu'on a qualifiée rock in opposition.
Ah oui.
Donc je connais depuis début des années 70 la scène, une certaine scène alternative... française et européenne, les groupes qui sont devenus mythiques ensuite, Gong, Can, Magma, et puis après ce qui est arrivé avec Henrik Aho à partir de 73, que je connais dès le début, et puis bien évidemment la scène américaine, Frank Zappa, Captain Beefheart font partie des choses que j'écoutais énormément à cette époque-là, Soft Machine et toute la scène de Canterbury, Caravan particulièrement, puis ensuite Hatfield and the North, Nationals, ce type de musique m'intéresse beaucoup, mais parallèlement j'écoute déjà de la musique électroacoustique, musique concrète, et de la musique dite contemporaine, pas tout, il y a des choix, mais des personnalités comme Stockhausen ou Ligeti m'intéressent beaucoup, beaucoup à l'époque. Et je connais, dès le milieu des années 70, ce qu'on a qualifié les répétitifs, particulièrement, on avait beaucoup écouté Terry Riley à l'époque de Poppy No Good, par exemple. Donc c'est assez large, et je vais au concert de free jazz aussi.
Ah oui.
Oui.
Alors... Venons-en à 60 étages, la création du groupe, du duo à l'époque. Alors comment s'est passée cette rencontre avec Jean-François Nodot, le cofondateur avec toi du groupe? Comment ça s'est passé? Comment en venez-vous à ce projet musical?
Alors, je faisais déjà de la musique très très underground dans les années 70. Il n'y a aucun enregistrement de cette époque-là. J'ai perdu les dernières cassettes il y a quelques temps, sans aucune prétention de diffusion, mais... avec quelques camarades dans la zone autour de Lons-le-Saunier, Besançon, nous faisons des bœufs, on va qualifier ça comme ça. Je déménage, je change de ville, je vais à Dijon en 80, c'est ça, 80, et le hasard qu'on a conservé fait que je rencontre ce jeune homme, on a le même âge, Jean-François Nodot, qui, dans un concert, de musique improvisée, comme il n'y avait déjà pas beaucoup de monde à l'époque, on se repère très vite. et qui lui aussi arrivait à Dijon, cherchait quelqu'un pour faire, pour jouer, hein, je veux dire, sans, hein, c'était sans autre ambition que de faire autre chose que jouer. Et puis très rapidement, on se, ça évolue, notre duo de guitare, etc., évolue vers, vers de la musique expérimentale. Et on utilise les bandes magnétiques. Il a un magnétophone, donc on enregistre, on fait du re-recording, on passe les bandes à l'envers, on fait du montage, les radios et les électrophones. Dès le début, la musique de 60 étages, dont on entendra de cette époque-là bientôt des extraits remixés par Lionel Marchetti. Ça, c'est un scoop sur votre antenne, jeune homme. Oui, ça, c'est en cours, c'est un travail en cours.
Okay.
Une œuvre électroacoustique de Marchetti construite à partir des cassettes du début des années 80 de 60 étages. Donc, ça existe et ça va être fait. Et on travaille pendant plusieurs années, 4-5 ans, avant de sortir notre première cassette. Allez, nous avons sorti deux cassettes avant d'attaquer les enregistrements disques. Des cassettes très rares, hein, mais qui valent leur pesant de souffle. Et avant de se lancer vers la grande aventure, ce qu'il faut nous faire le démarrage de la grande aventure, c'est-à-dire le disque It Proof Cauldrons for Wranglers, enregistré en une semaine en 88, avec le groupe étendu, cette fois-ci à Daniel Koskovitz et Jacques Debout, puisque plus quelques autres invités.
Ah bah tu sautes bien des étapes là quand même. Alors moi j'ai quand même une question qu'on pose rarement dans notre émission, mais là je sais pas, tu as la primeur de la chose. Quelle est la signification du nom 60 étages ?
60 étages, donc je disais tout à l'heure que le travail se faisait en écoutant la radio, c'est-à-dire qu'on jouait, on mettait la radio en même temps que nous jouions, hein, c'était pas... On n'avait pas de sample, etc. Hein. C'est-à-dire qu'on utilisait cette dimension aléatoire de la diffusion radiophonique, souvent en France Culture. Et il se trouve qu'un jour, une après-midi, il y avait une émission consacrée à un architecte dont j'oubliais le nom, et qui n'arrêtait pas, dans son discours, de parler de New York et des immeubles de 60 étages. Ah, on a fait un morceau qui a disparu, mais à l'époque, en utilisant cette émission radiophonique où on parlait de 60 étages, et nous avons décidé de... naturellement, de garder ce terme pour qualifier le nom du groupe.
Tout de suite, une démarche expérimentale, quoi. Pas, vous étiez pas bien vieux à l'époque et pas d'idée de faire, je sais pas, c'était peut-être une époque où il y avait quand même les Rolling Stones, les Beatles, je sais que t'es pas insensible totalement.
C'était déjà ancien pour nous.
Ah ouais ?
En 80, oui.
Ah ouais.
Oui. Pour moi, la grande époque des Stones, les Stones, c'est terminé en 72.
Ah oui.
Hein, je veux dire, la grande époque des Stones, c'est 65-72. Ah ouais. Et tout ce type de pop musique, c'est fini.
Donc déjà, pas aucune validité à faire ça, quoi.
Non. Ou alors par clin d'œil, comme on est capable de le faire maintenant.
Hein, clin d'œil. Et alors aussi, là, une question, ça, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, il y avait dans l'Est de la France, tu as parlé de Besançon, et il me semble qu'il y a à Metz peut-être, ou je sais plus, enfin, moi je me souviens, je recevais des disques du label Aya, qui était, il me semble, assez important, c'était une fête de recevoir le colis de Aya, alors quand j'avais les sous, donc c'était une fois par mois, quoi. Est-ce que ça a été influence
Ah ben bien sûr, hein, je veux dire, dans les influences, ce sont les aides techniques à l'époque. C'est le journal Atem, par exemple, hein, de la fin des années 70, piloté par Gérard Guyenne et quelques autres, consacré aux musiques nouvelles, qui a connu une petite vingtaine de numéros. C'est Aya, effectivement, de Dominique Djebolt, qui est basé à Reims, va lancer au tout début des années 80... le festival des musiques de Traverse de Reims qui va durer 4 ou 5 ans, et c'est un festival où nous nous précipitons puisqu'on peut voir nos idoles de l'époque qui s'appellent Fred Friis, Zizit et autres, Cassie Baird, hein, par exemple. Donc pour nous ça a été important, hein. Ce qui va donner à des jeunes gens de Nancy de l'époque l'idée de créer Musique Action. Oui, tout voilà, ça, c'est dans la même période.
Il y a une nébuleuse, il se passe quelque chose là-bas.
Exactement.
Quoi,
ouais. D'ailleurs, là, j'ai acheté ma première cassette de 60 étages. Aïa.
C'est vrai.
Ouais. Oui, la cassette était distribuée par Aïa.
Ouais.
Et il y avait un journal qui s'appelait Note aussi,
ouais.
Publié par Dominique Zebolt, et Intramusique de Pierre Dur à Strasbourg. Non, dans l'Est de la France, il y avait déjà à l'époque. Ouais. Mais voilà.
Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs. Hein, mais... bah, est-ce qu'on n'écoute pas un morceau là? Parce que. Qu'est-ce qu'on pourrait. T'as proposé d'écouter?
Alors, soit un extrait de Beaux-Soirs de Paris, soit de Hit Proof. Peut-être un morceau de Hit Proof, ouais.
Allez.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres avec aujourd'hui 60 étages, Dominique Repeco et Bruno Florence. Alors, on vient d'écouter un extrait de...
It Proof, Cauldrons for Wranglers, album sorti en vinyle 30 cm, enregistré en 88, pardon, sorti en 90. Et c'est le début d'une grande aventure qui est celle du label 33 Fermi, même s'il y avait eu quelques actions auparavant avec des cassettes, mais ça s'était fait avec notre argent propre, etc. Là, on décide de fonder un label qui s'appelle 33 Rêves Permis. Ouais. Et nous avons produit intégralement avec nos propres deniers ce disque-là. Et le nom va rester quand, deux ans plus tard, on va créer l'association 33 Rêves Permis.
Ah oui, alors c'est ça que j'ai pas très bien compris, la distinction.
Il y en a pas.
Il n'y en a pas.
Il y a peur que quand on a créé le 33 Rêves Permis, non, il n'y avait pas d'association, c'était informel. Et on a structuré une association pour avoir un compte en banque. On peut juste signifier que depuis, l'association existe depuis 24 ans maintenant, bientôt 25, cette association n'a jamais bénéficié d'aucun centime d'argent public, aucune subvention. Mmh. Et c'est vraiment un label d'autoproduction, intégralement à 100%.
Oui, toujours actif d'ailleurs. Vous sortez combien de références
ben, on essaie de sortir au moins un disque par an. Là, on est à quoi on est allé jusqu'à deux, au moins.
On a déjà fait.
On est à plus de 30 maintenant.
La dernière étant Fred Frith toujours mais
c'est sur un autre label, Vendeuvre. C'était fait au même studio, mais c'est un autre label.
J'ai jamais compris cette histoire non plus.
Hein, c'est très simple. Nous, notre label Tendre Rêve Permis, concerne prioritairement 60 étages, et ensuite de quelques groupes amis. Il y a eu Étage 34, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Il y a eu Idiot 1238, maintenant il y a Bruxelles. Et voilà, c'est lié à notre équipe.
Ok, ok. Je voudrais savoir, je crois qu'il voulait te dire de parler plus dans le micro.
Ah, d'accord, pardon.
Question un peu naïve, bête, je ne sais pas, en fait, peut-être pas tant que ça. À l'écoute de ce qu'on vient d'entendre, notamment ce morceau-là, je n'arrive pas à dire le nom, Ed Pouf, est-ce que la musique est écrite ou improvisée?
Alors, il y a eu plusieurs méthodes de travail suivant les albums de 60 étages. Mais il y a un point commun, c'est que chaque fois, il s'agit d'une combinaison savant dosage entre écriture et improvisation. Oui. Par exemple, sur le titre que nous venons d'entendre, c'est très clairement un hommage à Captain Beefheart. Mmh. Si vous écoutez bien la rythmique, ça c'est très net, mais c'était voulu comme ça. J'ai trouvé un riff de guitare qui tourne en boucle pratiquement tout le long du morceau. Mmh. Daniel Koskovitz, qui a travaillé sur ce disque-là beaucoup avec moi pour toutes les parties rythmiques, a trouvé la ligne de basse, et ensuite les autres instruments se sont rajoutés. La batterie qui était tenue sur ce disque par Michel Eltruc, la deuxième guitare par Jacques Dubout, et ensuite Jean-François Nodot au platine, qui fait le vent, qui fait voilà, tous les effets spéciaux, on va dire. L'harmonica, c'est Daniel qui fait le solo d'harmonica à un moment donné. Mais voilà, c'est un morceau qui s'est construit. Il y a une idée de départ, et progressivement, on construit. Je disais tout à l'heure que pour ce disque-là, c'est un des disques, il y en aura un autre plus tard, où j'avais tout préparé. Les schémas, des morceaux, les ambiances, j'avais même fait des maquettes, et je suis arrivé en studio. Enfin, quand nous sommes arrivés en studio, j'ai fait écouter les maquettes que j'avais faites sur cassette, et puis on a construit au fur et à mesure.
Ouais. Quel est l'autre disque ?
Celui où j'avais préparé tout, c'est ASBL, qui est le premier disque où apparaît Bruno Florence, qui est enregistré en 2000.
Ouais, exactement, il y a 15 ans. En fait, c'est quand je suis arrivé à Vendeuvre, tout à fait. Ouais.
D'accord. Peut-être un petit mot sur le studio du CCAM, et notamment le rôle de François Dietz.
Bien sûr, oui. Le studio a connu plusieurs époques. Dès le début des activités musicales au CSAM, même avant que je sois là, tout début des années 80, Moi, je suis arrivé à Nancy en 82. Il y avait un groupe de jeunes gens, dont Daniel Koskovitz, qu'on va retrouver souvent dans l'histoire de Tonton Rêve Permis. Mmh. Un de ses camarades qui s'appelle Antoine Jean, qui était le premier, on va dire, directeur du secteur musique, mais qui est resté peu de temps, parce qu'il a, il est parti en 1986 pour le festival Musica. Mais d'autres musiciens de Nancy, on peut citer certains que vous connaissez, comme Jean-Michel Albertucci, Jérôme Bourdelon, qui viennent plutôt de la sphère jazz, aussi Alain Casari, qui avait un groupe avec Daniel Koskovitz et Antoine Gint, et quelques autres, développent une activité, ils sont très jeunes, hein, ils ont 18 ans à l'époque, ouais. Ils développent une activité musicale au CCM, et installent un magnétophone 4 pistes et commencent à enregistrer. À partir de 82-83, François Dietz et moi-même, nous rendons compte, on se connaît parce qu'on travaille dans un établissement qui n'a rien à voir à l'époque, mais on est déjà branché musique et François fait déjà des enregistrements, mmh. Il a du matériel personnel, Revox, microphone, console, etc. On se rend compte qu'il y a une activité musicale intéressante là-bas, on les rejoint et mmh. On se rend compte que les goûts musicaux de ces jeunes gens rejoignent les nôtres. Et progressivement, François nous met à disposition, bénévolement au début, ses qualités de technicien. Et puis, les choses se mettent en route. Donc, il y a un certain nombre de disques qui vont être réalisés en quatre pistes entre 80, disons 83 et 86. Et en 86-87, le CCM bénéficie de subventions exceptionnelles de la région qui nous permet de construire un studio d'enregistrement, ouais. Hein, et c'est là que François et moi-même, finalement, allons être engagés par le CCM pour développer ce secteur d'activité. Mmh. Et François a travaillé comme ingénieur du son fin 87 jusqu'à 2013,
oui, tout
de façon
récemment,
ininterrompue, ouais. Et a participé à la production, à l'enregistrement et au mixage et à la production de près de 250 disques.
Ah oui, oui. Eh oui, je sais, je suis au courant. Il y a beaucoup de disques, oui, je suis au courant. Alors, il y a peu de choses hein, sur Internet concernant, quand on prépare une émission sur 60 étages, il n'y a pas excessivement de matière pour un groupe qui existe depuis 32 ans, c'est bizarre, mais j'ai quand même trouvé un truc qui m'intrigue, parce qu'il n'y a pas plus d'explications que ça, et c'est l'occasion d'en avoir. Quelle est cette histoire de concert en juillet 87 dans un magasin de meubles à Dijon?
Ben c'est vrai, c'est important, c'est le seul concert que nous avons réalisé en 87. Il y a même une photo, je crois, sur le site, ouais. Hein, où on nous voit jeunes et dynamiques. Le groupe, à l'époque, ce concert de 87, c'est Jean-François Dodo à la batterie, parce qu'il habite, il habite toujours à Dijon. Moi, je suis parti à Nancy depuis, hein. Lui est resté à Dijon, et il vient à Nancy régulièrement pour travailler avec nous. Il y a Jacques Debout, à la voix, aux platines, cassettes, il fait beaucoup de cassettes lui, plus que de disques et guitare. Daniel Koskovitz à l'époque à l'électronique et à la basse. Il reprendra la batterie un peu plus tard, en tout cas pour nous. Et Jean-François est en lien avec un ami designer de meubles, oui. Rue Jean-Jacques Rousseau à Dijon. Et il lui vend le truc. Il lui vend le truc et il lui dit, voilà, j'ai un groupe qui va très bien avec ton design de meubles, ce qui était quand même un mensonge éhonté, et on va jouer dans la rue Jean-Jacques Rousseau à Dijon, qui est en vieille ville, la ville historique. On fait fuir le public.
Mais il y a eu du monde.
Il y a eu du monde. Oui, le marchand de meubles avait habitude. Puis il y a les gens dans la rue. On était carrément sur le trottoir. Quoi. Hein, c'était un concert à l'ancienne. Ça n'existe plus maintenant, comme ça. Voilà, c'est le début. C'est la première fois qu'on joue en formation rock en concert. C'est pour ça que c'est assez fondateur.
Ah oui.
Et à partir de ce concert-là qu'on s'est dit, Et ben faisons l'album, ce qui est devenu Hit Proof.
D'accord,
voilà.
Ouais. Voilà. Ok. Alors en 84, si je me souviens bien, c'est la création de
Musique Action.
De Musique Action, oui. Et toi, tu deviens. Bon, t'es co-responsable, je crois, à l'époque. Tu deviendras directeur après du.
Je deviens directeur en fin 86.
Ouais. Voilà, du festival, et puis après de la. Du, de la du centre culturel. Ah non, scène nationale, c'est après encore. Du centre culturel André Malraux de Vendeuvre. Enfin, bon, voilà, ma question, c'est comment, dès cette époque-là, tu concilies tes diverses activités qui sont quand même chronophages, quoi. Hein, et est-ce que tu mets pas, un petit peu entre parenthèses, la musique ? Enfin, toi, ta carrière, enfin, je sais pas, le mot me déplaît, mais ton activité de musicien.
Bah, il n'a pas à déplaire parce que je n'ai pas de carrière musicale. Donc, mais j'ai une activité musicale discontinue. Ouais. Je suis un véritable intermittent de la musique.
Oui, voilà.
Ça, hein, c'est pour dire les choses très clairement. Effectivement, c'est une activité. Si on parle de mon emploi du temps, de mes calendriers, l'activité musicale est minoritaire.
Ouais.
Et très, très nettement. Et un peu trop, je trouve. Mais cependant, si vous regardez quand même la discographie, j'apparais dans une quarantaine de disques.
Oui.
Quand même.
C'est comme, oui.
Hein, je veux dire, alors parfois de façon fort brève, mais malgré un boulot assez important professionnellement au CSAM, je dis nous parce que Bruno est un petit peu à la même enseigne, nous arrivons de temps en temps à nous bloquer des périodes.
Hein. Voilà.
C'est là où il est question de la méthode de travail, des périodes où on bloque quelques journées et on se concentre à fond pour réaliser un disque. Et
on fait rien d'autre, quoi.
On fait rien d'autre.
Non, ouais.
On fait rien d'autre. Mmh. Mais c'est quelques jours. Hein. On va pas mettre 6 semaines pour faire un disque. Mmh. Mais on a cette capacité en 3 jours d'enregistrer. C'est le cas pour le dernier Lumpen Orchestra. On l'a fait à trois avec la complicité de François Dietz au son, c'était il y a 1 an et demi. L'essentiel du disque a été enregistré en 2 jours.
Et oui, ensuite, 2 jours.
Toutes les bases de tous les morceaux. Et ensuite, on est revenu de temps en temps pour faire des re-recording, etc. Notre méthode de travail, c'est-à-dire qui repose effectivement, hein, c'est quelque chose qui relie dans ses principes musicaux et dans ce que ça suppose comme technique d'arrangement, on va dire comme ça, ou technique instrumentale, c'est quelque chose entre le rock et le free jazz, voire la musique électroacoustique. Hein. Donc qui ne suppose pas un travail d'écriture au sens traditionnel du terme, et qui ne suppose pas forcément de très longues heures de répétition.
Oui.
La mise en place se fait en même temps qu'on enregistre. Mmh. C'est la culture de ce groupe. Hein, ce groupe, dans son histoire, dès le début, était un groupe électroacoustique. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de faire des bandes, de réaliser des bandes magnétiques, des cassettes, et pas forcément de jouer en concert. Mmh. Il y a eu des très longues périodes où 60 étages n'a pas joué du tout.
Tu anticipes plusieurs de mes questions là. Tu as parlé de Bruno, tu as dit comme Bruno, mais effectivement, Bruno nous en a parlé il y a quelques semaines. Enfin, c'est une question que je lui ai posée. Je lui ai demandé, te considères-tu comme un musicien professionnel ? Et alors, je vais te la poser, et en rajoutant, parce que je me doute bien que tu vas me répondre non. À ton avis, qu'est-ce que ça change de ne pas être un musicien professionnel ?
Alors, je peux répondre très simplement. Non, je ne suis pas un musicien professionnel, puisque je ne gagne pas ma vie avec ça. Je dirais même qu'au contraire, la musique me coûte de l'argent, hein, puisque on finance d'une manière ou d'une autre les disques et les activités annexes, donc ça coûte forcément un petit peu d'argent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des contraintes, c'est-à-dire que c'est difficile d'être disponible. On travaille peut-être pas très bien pour la promotion de notre groupe. On n'a pas beaucoup de temps pour chercher des concerts. Ça, c'est une réalité. On n'a pas beaucoup de temps pour entretenir un répertoire. Ça, sans doute. Et puis pour peut-être développer le projet avec d'autres musiciens invités, certainement. Mais en même temps, on fait absolument ce qu'on veut. Absolument ce qu'on veut.
Ah oui.
C'est-à-dire que quand on joue, là je parle pour nous deux ensemble, soit dans nos trucs, des projets différents, on a de comptes à rendre à personne, et ça plaît pas. On n'est pas dépendant du marché, voilà.
Ah bah ça, oui, c'est très bien, ça nous fait plaisir ici, mais pour autant, Bruno évoquait, quand on parlait de Bruxelles, le fait de ne pas être pris au sérieux par les programmateurs de concerts, de festivals, peut-être que ces gens-là privilégient des professionnels, après tout.
Alors, certainement qu'ils privilégient des professionnels, mais après je pense qu'effectivement... je sais très bien que 60 étages était très rarement pris au sérieux parce que c'est un groupe de pop. C'est soit compris comme un groupe de pop décalé, soit comme un groupe suivant les collaborations. Hein, je veux dire, parce qu'il y a eu quand même des collaborations de prestige, très curieusement, avec ce groupe. Je parle de Daniel Koskovitz, est un musicien professionnel qui joue avec Arzoïd. Donny Clazereau n'est pas tout à fait n'importe qui. Jérôme Nottinger, Lionel Marchetti non plus. Et on pourrait en trouver quelques autres comme ça. Sur scène, on a joué avec des musiciens comme... je parle pour 60 étages comme Mathieu Chamagne, sauf erreur de ma part.
Ouais, mais c'est parfois sur scène, en fait. Là, je rebondirais. Comme on enregistre ça, on ne répète pas comme on ne répète pas, effectivement, parfois. On ne peut pas donner sur scène. C'est vraiment...
Ce qu'il y a sur le disque,
voilà. Ouais. Effectivement. Donc, effectivement, moi on m'a parfois répondu par rapport aux derniers albums, à SBL ou Lumpen Orchestra. Lumpen Orchestra, par contre, on l'a répété après, on a rejoué. Mais on nous a parfois dit, oui, mais de toute façon, vous ne jouerez jamais ce qu'il y a sur le disque.
Est-ce qu'on le dit à un improvisateur, ça?
Non. Voilà,
ouais. Mais non. C'est curieux quand même.
Moi, on m'a fait la réflexion.
On assume totalement le statut particulier de notre musique, qui est une musique, effectivement, qui n'est ni de la pop, ni de la chanson, ni de la musique électroacoustique, ni de la musique improvisée, ni de la country music islandaise. je fais même pas d'humour avec ça, mais qui est tout à la fois. C'est-à-dire que c'est vraiment une musique de synthèse de toutes nos influences qui sont assumées pleinement et qui peut changer d'un concert à l'autre.
Eh bien, tu évoquais le fait que le groupe 60 étages ne s'est pas pris au sérieux, et pourtant il me semble que l'album Beau Soir de Paris est quand même considéré comme un album fondateur d'un certain... Alors je ne sais pas les noms de genre de musique, et puis je m'en fous pas mal, quoi, mais comment dire... d'une certaine musique rock en marge, tout simplement.
Bon, je crois même que, enfin, même avant, Beau Soir de Paris, on l'a sorti, il est sorti en 92, mais il y a des morceaux, effectivement, des années 80 dedans. C'est Hit Proof qui a été considéré par, Hit Proof, puis ensuite Beau Soir. Oui, dès Hit Proof, comme un des disques fondateurs de post-rock, certains critiques, en tout cas un véritable disque de free rock et qui est devenu pour certains fondateur du post-rock. C'était il y a 22 ans et plus personne ne s'en souvient, mais effectivement il a une position très particulière grâce aussi à ses liens avec le free jazz, la musique électroacoustique.
Tu peux nous dire deux mots de la genèse de ce disque de Beau Soir de Paris?
Alors Beau Soir de Paris, c'est le moment où en fait après l'expérience Hit Proof, il y a un groupe de base et nous décidons, à l'époque il y a Jean-François qui est encore très présent, Jean-François Nodeau, Daniel devient présent, Olivier Pacotte est arrivé, Jacques Dubout est toujours là, et on décide pour étendre notre palette sonore, on décide de procéder à d'autres invitations. On invite nos camarades de Metz qui s'appellent les Dust Readers.
Ah oui.
Eh ben oui. On invite Donny Clazereau. Il y a d'autres personnes qui passent par le studio de façon brève, etc. Et on expérimente plusieurs formes. Hein. On expérimente la poésie sonore, des aventures électroacoustiques. Et ce qui donne donc c'est un album assez long. Dans sa durée, Hit Proof faisait 40 minutes, mais c'est normal, c'était un vinyle de départ. Là, on dépasse l'heure de musique avec une grande variété et quelques morceaux qui pour moi, 22 ans après, demeurent des très grands morceaux. Il y en a plusieurs que j'aime particulièrement. Et
peut-être on écoute un.
Allons-y.
C'est lequel?
Alors là, je ne sais plus. Je n'ai plus la playlist. Écoutons d'abord. Je vous dirai après.
Très bien. We'll be right back. Voilà, c'était 60 étages, un extrait de Beau soir de Paris qui s'intitule, Dominique ?
Forsaken Piece.
Voilà.
Une pièce de coécrite avec Daniel Koskovitz et coécrite et enregistrée en septembre 1992.
Alors, tu as évoqué l'arrivée d'Olivier Pacotte dans le groupe, donc à la basse.
Oui.
Et alors, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi en 93 est créé Étage 34 ? Quelle nécessité, est-ce que c'est quelque chose d'esthétique ou...
Alors, il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que.
Donc, alors, pour préciser, pardon, trio entre, avec toi à la guitare, Daniel Koskovitz à la batterie et Olivier Pacotte à la basse.
Voilà, c'est une période qui correspond à la fois au désir de Daniel de se remettre véritablement à la batterie. Hein, dans la période précédente, il avait lancé Juggernaut, donc il travaillait avec des machines, des boîtes à rythme. Il joue de la basse, il se met un peu la guitare, il développe ses projets personnels. Dans 60 étages, la souplesse du groupe lui permet de développer d'autres parties que des parties strictement rythmiques. Mais bon, voilà, au milieu des années 90, il dit « bon, j'ai envie de me remettre à la batterie ». Parallèlement, dans 60 étages, il y a des petits flottements. Jean-François quitte le groupe, arrête la musique. Jacques Debout est beaucoup moins présent. Et les trois qui sont actifs à ce moment-là, c'est Olivier, Daniel et moi. Et assez naturellement, on décide de travailler ensemble. En même temps, on aurait pu éventuellement garder le nom de 60 étages,
oui,
puisqu'on en faisait partie, mais on a gardé cette idée que 60 étages était bien autant un concept, un laboratoire de travail,
ah oui,
qu'un groupe de scène. Alors, Étage 34, dès le début et pendant toute sa carrière, a été d'abord un groupe de scène qui a fait des disques, certes, hein, mais la plupart du temps, live ou enregistré dans des conditions live, et c'est totalement différent. Dans Étage 34, il n'y a jamais de re-recording. Rarement des invités. Bon, il y a eu un disque spécial avec Benyat, un autre avec Serge Peille, mais c'est marginal. C'est vraiment un trio de rock.
Ouais, ouais. Donc c'est une histoire de concept, effectivement, parce que je me posais la question. Il y a une période où 60 étages et Étage 34 sont le même line-up, pratiquement.
Pratiquement, oui.
Oui, c'est ça. Et alors, une autre question, donc, c'est, alors, toujours la question bête, pourquoi 34, hein, du coup?
Oh, c'est vraiment une connerie de bistrot. Et, on cherchait comment on va s'appeler. Et puis on a dit, bon, c'est un groupe de rock, donc 3-4.
Ah oui,
et on y va, quoi.
Ah ouais, d'accord.
Non, mais il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Ah ouais. Là, évidemment, comme on s'est amusé avec les chiffres, il y avait 60 étages, étage 34, 33 est fermé. Idiome 1238 pour le big band qui regroupe les mêmes, plus les Toulousains dans le contexte du free rock. Donc tout le monde a cru qu'il y avait toute une salade avec
ésotérique.
Voilà. Alors c'est, en général, c'est vraiment de l'ordre de la connerie ou de la physique, parce que 1238 c'est la vitesse du son en kilomètre-heure et non pas en mètres par seconde.
Alors on va écouter Étage 34, mais deux questions par rapport à ça, mais je crois que tu as à moitié répondu à l'une d'entre elles. Par rapport au concert, moi je me souviens d'avoir vu 60 étages à l'époque de Beau soir de Paris en 93. Je crois que d'un des premiers concerts que j'ai vu aux Instants Chaviré.
Oui.
Ou deuxième, pas le premier mais le deuxième en tous les cas.
Ah, ça devait être avec Yves Botts avec nous.
Ah, je me souviens plus.
Il y avait Yves Botts et Jean-François Nodot.
Ah, je me souviens plus.
C'est le dernier concert. Tu as vu le dernier concert de Jean-François Nodot sur scène?
Ah d'accord.
Tu y étais.
Eh ben j'y étais. Et après, je ne crois plus jamais avoir vu 60 étages. Alors, j'étais pas partout non plus, donc il y a dû y avoir.
Parce qu'on est très rarement invité à Paris, hein, faut le dire.
Oui, hein, très rarement invité. Vous êtes invité dans les studios de Radio Libertaire.
Voilà, c'est ça.
Merci.
Par contre, j'ai vu plein de fois Étage 34 dans plein de festivals avec Benyat Hachari notamment.
Oui, oui, mais c'est l'époque, donc ça, c'est les années 80,
c'est ça,
ouais. 90, début 2000, ou. Enfin, 90. Ou 60 étages est en sommeil. 60 voilà, étages se remet à travailler pour un disque en 2000. Après, si on regarde bien, après au moins 5 ans d'inactivité.
D'accord, bah ça tu réponds aussi à une question. Je voulais demander si 60 étages avait eu justement des périodes de stand-by. Quoi,
tout à fait, il y en a eu, oui.
Ouais, ouais. Et alors une autre question un peu plus... précise, c'est la collaboration d'Étage 34 du coup avec Tenco. Comment ça s'est fait?
Alors je sais plus exactement qui a eu l'idée le premier. Toujours est-il qu'on a été invité une première fois, ça devait être euh, 2003, 2004, invité, on a joué à À Fresnes.
C'est à Densité, je crois.
Oui.
Ah oui, c'est à Densité. Voilà, tous les morceaux s'appellent Densité.
Ouais, ouais. Non, on a joué une première année. Non, mais dans le festival de rock.
Ah non, c'est plutôt le Fresnes, la première de fois. Fresnes, en fait. Plutôt, hein, ouais,
et
ouais.
Puis ça a fait un carton. Ah oui, le premier concert. Et on était réinvités l'année d'après pour un nouveau concert, cette fois-ci à Densité. Ça devait être 2005, sauf erreur de ma part. Et puis on a organisé une petite tournée autour, Tinko était d'accord, et on a profité de sa présence pour aller en studio. On a tout groupé. Mmh. C'est-à-dire qu'en 8 jours, on a fait la totale, la tournée, l'enregistrement. Et voilà, c'est une belle aventure artistique. Et on a rejoué 2 ans après à. En autre, il me semble qu'il y a eu une autre date, ouais, c'est ça. Voilà.
Question un peu plus délicate, Olivier Pacotte est décédé. Oui. Est-ce que le groupe Étage 34 a terminé avec lui ou
c'est
est-ce
terminé,
que,
oui.
Il n'y a pas eu d'idée de non. continuer sans lui.
Non, Daniel a dit non, c'est fini.
D'accord. On va écouter un morceau du groupe.
Tout à fait.
Tu proposes quoi?
Je crois que c'est Lost Exit de Étage 34.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au groupe 60 étages, avec Dominique Répéco et Bruno Florence. Alors là, en l'occurrence, c'était Étage 34. On va revenir à l'histoire de 60 étages, et avec, avec plusieurs albums, De sa bouche de loup, ABSL.
ASBL.
ASBL, pardon.
Pardon. C'est pas grave.
Et voilà, il y a des nouveaux musiciens qui viennent participer au groupe, dont Bruno. Puis plutôt des électro-acousticiens, je sais pas si le terme se dit.
Ça se dit, oui.
Lionel Marchetti ou Jérôme Nottinger. Avec ces musiciens, on passe d'un groupe rock à quelque chose de plus éthéré, je sais pas comment dire, plus... Oui, électroacoustique, une musique plus calme, pas forcément d'ailleurs, mais il y a un changement, quoi, en tous les cas, quoi. Ça tient à quoi cette volonté de,
bah, c'est de pas prendre cette direction de, c'est pas véritablement un changement esthétique, puisque je vous le disais tout à l'heure, les bandes magnétiques, les radios, les sons fixés, les sons non instruments existent depuis le début, à part que on faisait tout à la main, à deux au départ. Après, on a utilisé des compétences. Et quand j'invite Jérôme Nottinger en 93 pour les premières séances de ce qui va devenir, quelques années plus tard, de Sa Bouche de Loup, j'invite quelqu'un qui a envie d'expérimenter, qui sort vraiment de la musique concrète et qui, pour la première fois, se confronte à un groupe de rock et à l'improvisation. Et c'est une aventure qui va prendre beaucoup de temps, mais qui nous permet aux uns et aux autres d'évoluer. Sur le principe, c'est la confrontation d'instruments traditionnels, batterie, basse, guitare, etc., avec d'autres types d'instruments. Donc, en l'occurrence, là, table de mixage, bande magnétique. C'est ce qu'on va faire un peu plus tard, parfois avec Mathieu Chamagne, particulièrement. Mmh. Hein, je veux dire, c'est une continuité, à part que ce n'est plus moi. Disons que je limite un petit peu les instruments que j'utilise, même si on y revient maintenant dans la formule... en trio, hein, on retrouve un fonctionnement actuellement depuis 3 ans dans la formule à principalement Bruno et moi, avec Heidi Brouzin comme invité, enfin elle est quasiment les membres permanents maintenant, on peut le dire. Avec le nombre restreint de musiciens fait qu'on joue de plus d'instruments. Oui. Voilà. Mais c'était très bien qu'on développe ces invitations, Laurent Daillot aussi, grand disparu de notre bande, hein, et ces musiciens là c'est clair que Chamagne et Laurent Daillot ont fait que ASBL a une couleur qui est un grand disque, qui a une couleur très particulière, même dans les morceaux rock, parce que c'est des disques bien aussi rock que d'autres,
effectivement, hein. Alors encore des citations de Don Van Vliet, Captain Beefheart notamment dans ce disque-là.
Et même des autocitations, puisqu'on va reprendre un morceau de Beaux-Soirs de Paris avec Traitement de la voix. Ah oui. Donc on s'amuse à ça aussi, on s'autocite.
Alors, comment vous procédez à cette époque-là ? Donc, j'imagine que ce sont plus des compositions collectives ou des improvisations ?
Pas forcément. Il y a les deux. Parlons de Révolutionnaire Suicide, par exemple, qui est un disque de 94 avec comme invité d'honneur Donny Clazereau et les Dust Breeders. J'ai tout préparé. J'ai préparé le schéma, hein, comme j'avais fait au début avec Heat Proof. Les gens sont arrivés en studio, ils avaient le cadre. Après, ça bouge, hein, parce que la trame est préparée, mais fixée. Pour ASBL, j'avais préparé tous les morceaux rock d'ASBL ont été préparés par Olivier et moi-même avant que les autres arrivent en studio. Ah, il y avait la maquette, il y avait la base rythmique et la base rythmique basse, boîte à rythme et guitare sous lesquelles tout le monde a joué. Il y avait d'autres pièces totalement improvisées, mais tout était préparé.
C'est au moment de ASBL que tu
arrives à ce moment-là. Ouais. Mais j'ai été invité à ce moment-là par...
Comment ça se passe ?
Il me dit, tu viens avec ton accordéon et tu viens chanter. Je lui dis, ça va pas, non, t'es cinglé ou quoi ? Non, mais pour moi, ça a été un grand bouleversement, en fait. Enfin, un grand bouleversement musical, je veux dire. Hein, parce que moi, je faisais deux, trois improvisations en atelier avec deux ou trois personnes. Et je me suis retrouvé avec quand même deux ou trois personnes là, face à moi, qui... pour moi, ça a été quand même un gros truc.
Parce que j'imagine que tu connaissais bien le groupe avant. Quoi.
Je connaissais pas si bien le groupe que ça. Pas plus que toi, tu vois.
Mais non, parce que c'est une époque où on jouait plus.
Ouais. Voilà. Je connaissais le trio, effectivement. Je connaissais Olivier et Daniel, mais le trio, effectivement, en lui-même. Mais le 60 étages, je ne savais pas, effectivement. Et en plus, là, il y avait quand même Laurent Daillot, il y avait quand même Lionel Marchetti.
Thierry Madiot.
Il y avait Thierry Madiot, il y avait quand même Jérôme. Et je me suis retrouvé à être dans un studio. Pour moi, ça a été un petit peu. Ça n'a pas été si simple que ça, en fait. Voilà.
Là, il y a des stars.
Ouais, il y a des stars. Oui, c'est ça, ouais. Et voilà. Je ne suis pas si fier que ça de tout ce que j'ai fait là-dedans.
Tiens donc.
D'ailleurs. Je crois qu'il y a une chronique dans Wire, je crois, c'est le The Meanest Accordionist of the World.
Oh, la vache. Ah, mais c'est pas loin d'être un compliment. Tu parlais de Revolutionary Suicide. Petit mot sur cet album avant qu'on en écoute un morceau. Donc, c'est celui avec justement Denis Clasereau et.
En fait, Revolutionary Suicide, c'est l'idée que j'avais, c'était de faire une pièce continue, une pièce de 40 minutes continue avec plusieurs mouvements. Et c'est pas loin d'être réussi. Donny Clasereau est venu, non, objectivement, je veux dire, c'est un disque que j'aime beaucoup et il faut l'écouter en entier pour s'en rendre compte.
Hein, je veux dire, là, on pourra pas, là.
Mais... je sais qu'on n'aura pas le temps, mais tu vas le faire chez toi dès que tu rentres.
Ah, bah oui.
Mais, et Donny Clasereau, avec qui je m'entends très bien depuis longtemps, qu'on avait déjà invité 2 ans avant pour 2 titres sur Beaux-Soirs de Paris, accepte de venir sur une pièce et il fait un magnifique solo, une tuerie complète sur une des pièces. Et voilà, c'est juste un petit chef-d'œuvre grâce à lui.
Ah ben, on écoute.
Thank you.
Alors Dominique Repeco, tu as parlé des temps d'inactivité du groupe. Qu'est-ce qui relance l'envie de créer un disque? C'est quoi? C'est la rencontre avec quelqu'un, avec une idée?
Je crois que c'est le manque. Enfin, je crois que j'ai besoin de faire un disque de temps en temps. J'ai besoin de jouer sur scène. Enfin, c'est. Et puis peut-être que quand je relance 60 étages début des années 2000, c'est peut-être un moment où étage 34 est un peu en perte de vitesse, que Daniel n'habite plus à Nancy, il part dans le Jura, donc on se voit moins souvent. Et puis le fait que Bruno soit justement dans la maison CCAM, voilà, que j'en et puis qu'avec Olivier on a envie de faire quelque chose, donc on pousse le projet, les deux, et puis les choses avancent, quoi. Ouais. Et puis on envoie des invitations et les gens répondent, donc on le fait, quoi.
Donc c'est ce qui s'est passé, j'imagine, pour Lumpen Orchestra.
Ça s'est passé d'abord pour Replica 07.
Ouais, il y en avait eu un autre avant aussi. Enfin, moi, je me souviens d'une. Enfin, je veux citer l'anecdote parce que pour le 6, même si c'est pas le meilleur album de 60 étages, mais c'était quand même un album assez rigolo, puisqu'on a tout enregistré quand même chez Dominique.
Quoi. Ouais,
dans sa salle à manger. Et c'est quand même assez rigolo. Faire une prise de voix dans les toilettes de chez Dominique, c'est quand même. On a fait ça en un week-end. Dans son appartement, enfin dans sa maison, c'est quand même assez, c'est ça qui est assez intéressant avec 60 étages et avec Dominique, c'est de pouvoir tout d'un coup, il te dit bon ben on fait quelque chose en 3 jours, en 4 jours, donc ça s'est fait pour ça, mais après aussi pour les deux autres qui ont suivi, quoi. Ce qui a donné effectivement, moi je pense que Lumpen Orchestra est peut-être celui qui est le plus abouti des trois derniers qu'on a fait ensemble. Le plus travaillé des trois derniers qu'on a fait ensemble.
Il y a une bonne inspiration aussi, il y a des bonnes idées, je trouve.
On en écoutera un extrait pour terminer l'émission. Mais moi, alors, la question que je veux vous poser, c'est quelle est l'actualité de 60 étages? Est-ce que vous allez faire des concerts, des disques?
L'actualité, j'ai donné une petite piste en début d'émission. L'actualité, c'est en janvier, la présence en nos murs de Lionel Marchetti, qui vient faire un travail très particulier, qui est un remix d'éléments fixés sur des cassettes que je réalisais au début des années 80 lors de répétitions ou de performances de 60 étages. Je lui ai filé, il y a plus de 15 ans, une valise. Et bon, il a bricolé dans son coin. Voilà, ça a mis très longtemps à se mettre en place. Et là, ça se débloque. Et il a réalisé 13 morceaux, 13 pièces, qu'on va mixer et compléter très prochainement. Donc c'est une relecture et un remix de pièces inédites de 60 étages d'il y a 30 ans.
Très bien. Ça, c'est en janvier, alors.
C'est l'actualité.
Et les concerts? C'est pas à l'heure du jour?
Bah, si on veut bien nous inviter.
D'accord. Alors je lance une annonce au peuple. C'est quand vous voulez, les gars. On est prêts.
À bon entendeur. Mais il nous reste un peu de temps pour parler quand même de la soirée de ce soir.
Juste une petite chose, parce que moi, je faut quand même. Donc remercier déjà aussi Metamkin qui continue à soutenir 60 étages et 33 rêves permis. Et dire que. Tous ces disques sont à vendre.
Ah bah oui, bien sûr.
Sur notre site.
Sur notre site internet, 33fpermis.free.fr. Et toute l'actualité de 33F Permis est disponible là-dessus. Voilà.
Tous ces excellents disques sont donc à vendre sur votre site.
Pas cher
en plus, voilà. C'est vrai.
Et donc, chez Metamkin.
Et chez Metamkin également, voilà. De l'ami Jérôme Nottinger. À qui je fais un bisou. Tu es là pour une raison précise aujourd'hui là, à Paris.
Eh bien, je suis à Paris, non, à Montreuil. En ce moment à Paris, tout à l'heure à Montreuil. Oui, pour un événement. Un événement qui correspond, on peut le dire grosso modo, aux 25 ans d'un magazine trimestriel essentiel. Revue Corrigée, qui vient de sortir au moment où je vous parle, son 102e numéro, ce n'est pas rien, 102 numéros, donc tous les trimestres, Voilà, depuis 25 ans.
Ah, j'étais abonné, moi, il y a 20 ans.
C'est bien. Et ce magazine consacré aux formes expérimentales, musicales, mais pas que. Puis il y a la poésie sonore, il y a le cinéma expérimental et toutes sortes de choses. Ce magazine va changer de tête rédactionnelle, puisque Jérôme Dottinger, qui en a la charge depuis très longtemps, et Albert Durand, qui en a la charge administrative, passe le flambeau à une équipe de Lille, lilloise, Lionel Palin et Barbara Lang.
Lang,
c'est ça. Avec d'autres personnes qui rentrent dans Bruno pour des dimensions, certaines dimensions logistiques.
Plus logistique, ouais.
Voilà. Donc une équipe de jeunes, on range les vieux.
Oui.
Et voilà, donc c'est une nouvelle aventure. Donc à cette occasion-là, on avait une réunion de passation. Hier, on faisait un peu un point, puis ça va continuer aujourd'hui. Nous avons décidé de faire une soirée à entrée pas chère, puisque c'est 6,50 €, c'est le prix d'un numéro. Mais je crois que si on paye le billet d'entrée, on a un numéro, donc c'est vraiment pas cher. Pour le prix de ce numéro, vous allez assister à plus de 4 heures d'événements sonores où la plupart des membres de la rédaction actuelle jouent.
Ouais.
Dans des formes différentes, avec quelques invités, comme Jean-Luc Guillonnet. Bon, les Quanin, qui travaillent aussi pour la revue. Mais Jérôme Dottinger va jouer, Barbara, dont je parlais, Lionel, moi-même, des rédacteurs. Paul-Yves Bourran va jouer, puis j'en oublie, Casper Toplitz, etc.
Ah oui.
etc. Donc c'est une grosse soirée avec beaucoup de pièces courtes.
Ouais.
Que les gens n'aient pas peur, c'est des pièces de 10 minutes, un quart d'heure, quelques petites surprises aussi. Et ça commence à 20h, ouverture des portes 20h, ça démarre à 20h30 et ça finit vers minuit et demi.
Donc aux instants chavirés, donc on donne
aux instants chavirés,
7 rue Richard Lenoir à Montreuil. Ouais.
Voilà qui est dit. On va faire nos annonces, Laurent. Eh bien, ce soir, alors il y a beaucoup de concurrents ce soir, désolé. Ce soir à la librairie Publico, Capitaine Anarchie en dédicace. Capitaine Anarchie est une bande dessinée au format comics dont les influences sont variées. Le Capitaine Anarchie et ses amis ont vu le jour sur un coup de tête contre le marteau inique de l'injustice sociale et du mensonge élevé au rang de valeur universelle. Donc c'est ce soir à 19h à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Ce soir également à 19h et pour 10 €, Tania Pividori, qu'on avait entendu cet été lors des fameux enregistrements de concerts de Musique Action. Donc c'était le projet projet vocal
les 4 voix
6 voix, je me souviens plus du nom, c'est horrible. Donc projet de Pascal Labbé, Intonation, voilà. Tania Pividori à la voix ce soir à Christelle Seri, guitare électrique. C'est à 19h, donc alors je vous dis le petit texte. Tandis que la voix pince les cordes, la guitare chante ou l'inverse, elles font sonner l'instant au creux de votre oreille. C'est à la Comédie Nation, 77 rue de Montreuil, dans le 11e arrondissement de Paris. Et donc c'est à 19h et ça coûte 10 €. Ce soir également au 99 à 20h30, l'ami Jacques Pochard organise un concert avec Marco Carré-Simin solo à la contrebasse, donc, et le quartet Richard Bonnet à guitare, Antonin Triang au saxophone et la basse clarinette, Yannick Tallet à la batterie et Stéphane Payen au saxophone. C'est 99 rue du Ruisseau dans le 18e arrondissement de Paris et ça coûte 7 €. Demain, samedi 20 décembre, Résistance en musique et au cinéma, en présence de Michel Rollin et Jean Rochard. Alors, il y aura de la musique avec l'album Chronique de Résistance de Tony Aymas, du label Natto. Chronique de Résistance, des chansons, des poèmes et des instrumentaux. Suite en 27 morceaux pour les résistants du passé, du présent et du futur, des textes, de la musique, un livret, des dessins rassemblés par Jean Rochard pour un album superbe et original. Et la partie cinéma avec un film de Michel Rollin, Femme de bonne volonté. Deuxième partie, L'âge adulte, le temps des luttes et des désillusions. Six femmes inconnues dont l'enfance se déroule durant la Première Guerre mondiale portent des regards sur leur engagement pacifiste, antifasciste, de gauche, en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, entre les deux guerres. Voilà, donc ça c'est toujours au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, la librairie Publico. Le samedi 20 novembre, demain à 20h, à l'occasion de la parution du 15e Leporello de la collection Derrière la vitre, l'autre jour, livre de Jean-Luc Guillonnet, projection de informatique de soi-même de Jean-Luc Guillonnet, suivi de Reciprocal Score, avec Lotus Edé Coury, je crois que c'est une danseuse, et Jean-Luc Guillonnet. C'est à Hackenbusch, 3 rue Raymond Fassin, à Malakoff. Alors c'est pas le bout du monde, hein, Malakoff, c'est en banlieue, proche, c'est au métro Malakoff, plateau de Vanves, ligne 13. Laurent, as-tu des annonces ?
Non, pas plus que ça.
Eh bien, il est temps de nous quitter. La semaine prochaine, nous recevons pas. Nous avons enregistré au Festival Densité et nous remercions encore Emmanuel Pellegrini pour cette programmation et de nous avoir permis de faire cette interview de Jean-Léon Palandre et Marc Pichelin pour une émission sur les 20 ans de la compagnie Oui Dire. C'est passionnant, vraiment, c'est une super rencontre et vraiment ils disent des choses très très bien. Moi j'avais une voix cassée, enrhumée, enfin voilà, mais c'est pas important. Ce qu'ils disent eux est vraiment très très bien. Je vous encourage à écouter cette émission la semaine prochaine. On va se quitter avec un extrait de Lumpen Orchestra avant de laisser la place à nos amis de sortir du colonialisme. Peut-être tu peux annoncer le morceau
Elle s'appelle Lumpen Velvet, qui est un hommage assez direct mais très décalé au Velvet Underground de M. Lou Reed, qui venait de... Non, qui n'était pas encore mort, je crois qu'on l'enregistrait. Il est mort une semaine après.
Il est mort juste après.
Ouais. Un choc, sans doute.
Eh bien, on écoute ça. Merci encore beaucoup, beaucoup, Dominique.
Merci à toi.
Merci Bruno. Et à bientôt. Hein.
À bientôt.
Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts. Wir trinken dich mittags und morgens. Wir trinken dich abends. Wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus.
Gestern habe ich angefangen, dich zu töten, mein Herz.
jetzt liebe ich deinen Leichnam. Wenn ich tot bin, wird mein Staub nach dir schreien. Du bist gegangen, die Uhren schlagen mein Herz. Wann kommst du? Du bist gegangen, die Uhren schlagen mein Herz. Wann kommst du?
Marisa! Marisa!